qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourue fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes, dans l'admiration, ils disaient « Mais voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ?» Partes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes perplexes et se disaient les uns aux autres, « Mais que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Oh, ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et s'exprima en ces termes. « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Voici, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. » Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et continue en leur parlant de Jésus-Christ, Jésus qui est mort, qui est ressuscité selon le dessein de Dieu. Et il continue au verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu cela, ils ont leur cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, « Mes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour, le nombre furent ajoutés environ 3000 âmes. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Jusqu'ici, notre lecture. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? C'est la question étonnée qui parcourait tout Jérusalem le jour de la Pentecôte, ce jour dont nous venons de lire le récit. Qu'est-ce que cela veut dire, la Pentecôte ? On aimerait que de temps en temps, on se pose un peu plus cette question aujourd'hui et que le mot Pentecôte signifie autre chose que simple week-end prolongé avec un lundi. Oui, qu'est-ce que cela veut dire ? La Pentecôte. Le mot lui-même signifie le cinquantième, sous-entendu le cinquantième jour. Cela renvoie au calendrier juif qui était celui de Jésus. On comptait 50 jours après la Pâque. La Pâque fêtait la délivrance, le salut de Dieu. Et le cinquantième jour après la Pâque était le jour de la fête des moissons, où l'on offrait au Seigneur les premiers fruits de la récolte qu'il avait donnée. Et Jésus donc a inscrit la venue de l'Esprit dans ce cadre, entre la Pâque et ces 50 jours qui suivaient. Pâque disait « Dieu sauve », Pentecôte dit « Dieu bénit ». Pentecôte, c'est la bénédiction de Dieu comme fruit du salut que Dieu a donné. Mais quelle est-elle, cette bénédiction qui suit le salut de Dieu? Cette bénédiction, c'est un peuple nouveau. C'est une belle et riche moisson d'hommes et de femmes, de jeunes et de vieux, de serviteurs et de servantes, de gens de toutes les nations qui entendent parler des merveilles de Dieu et qui reçoivent la bonne nouvelle du salut en Jésus. La moisson qu'inaugure le jour de la Pentecôte, c'est l'Église. Et c'est pourquoi aujourd'hui, jour de Pentecôte, on peut dire « Bon anniversaire l'Église !» Et pas simplement « Bon anniversaire l'Église du tabernacle », bien qu'on en fasse partie, mais l'Église de Dieu partout, dans le monde entier, en Afrique, en Australie, en Chine, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, à Paris. « Bon anniversaire l'Église !» Avec tes forces et tes faiblesses, avec ton expansion et les oppositions que tu subis, avec les rassemblements de plusieurs milliers de chrétiens que l'on trouve à certains endroits et les rassemblements de deux ou trois fidèles que l'on trouve ailleurs. Bon anniversaire et bon vent, surtout porté par le souffle de l'Esprit. Que nous dit cet anniversaire, cette étape fondatrice qui a vu la naissance de l'Église? Je vous propose d'abord un petit coup de rétroviseur, mettant cet anniversaire dans sa perspective historique. Cet anniversaire nous dit d'abord que Dieu est fidèle à ses promesses. Il avait annoncé un peuple nouveau. On en avait rêvé, Dieu l'a fait. Les prophètes avaient prédit une alliance nouvelle. Jérémie avait aspiré à cette alliance, avait prédit un nouveau retour à Dieu. Ézéchiel l'avait annoncé. Une dernière et belle étape du plan de Dieu, c'est le texte de Joël que nous avons lu. L'histoire d'Israël avait tellement montré le besoin d'un peuple de Dieu qui soit transformé, qui soit renouvelé, d'un peuple de Dieu qui ne possède pas simplement la loi de Dieu dans un livre, mais la loi de Dieu écrite vraiment dans le cœur. On aspirait à un peuple où chacun serait vraiment partie prenante au culte rendu à Dieu, partie prenante au service à rendre à Dieu. On aspire à être rendu capable de marcher dans les voies de Dieu par l'action de l'Esprit de Dieu. On attendait parfois ça comme une vraie résurrection. Dieu l'avait promis, Dieu l'a fait. Pentecôte, l'anniversaire fondateur de l'Église, nous dit cela, Dieu fait ce qu'il promet. Et ce qui est vrai du Père, l'est aussi du Fils, Jésus, en montant au ciel, avait promis à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'au bout du monde. » Ce qu'il a dit, il l'a fait. Et aujourd'hui encore, l'Évangile se répand partout, transforme des vies partout. Pentecôte, oui, rappelle, Dieu fait ce qu'il promet. Cet anniversaire, deuxièmement, dans sa perspective, nous dit aussi que la mission de Jésus est bien accomplie et qu'elle est un fondement sur lequel la suite peut s'élaborer. C'est ce que Pierre explique. Il explique que Jésus, malgré son ministère et les signes qu'il a accomplis, a été, oui, rejeté par les hommes, qui l'ont fait mourir en le clouant au bois. Et il s'adresse à des gens qui étaient témoins et peut-être même participants de cela. Mais, dit-il, Dieu a donné publiquement raison au Christ, à Jésus, en ressuscitant les morts. Jésus est vraiment le Christ, est vraiment le Messie promis. Et celui qui était le crucifié est désormais Seigneur et Messie à la droite de Dieu. Son œuvre de salut est accomplie. Il a fait tout le nécessaire pour que le pardon des péchés soit accordé à quiconque se réclame de lui. Et sur cette base, l'Esprit est répandu. Christ, notre Pâque, a tout accompli pour notre délivrance, pour notre salut. L'Esprit peut prendre le relais en s'appuyant sur ce que le Christ a fait. Et l'Esprit est répandu maintenant comme une force vivifiante pour le peuple de Dieu, pour tout ce qu'il lui faut désormais être et réaliser. Alors il faudra veiller à ne pas confondre les deux. D'un côté, la Pâque et tous ses acquis en Jésus-Christ, et de l'autre côté, Pentecôte et tout ce qui s'ouvre à partir de là. Pâques nous dit qu'en Jésus, nous avons le pardon de nos péchés, que nous recevons sa justice, le statut d'enfant de Dieu, si vraiment nous avons foi en lui, si nous nous abandonnons à lui. Pentecôte nous parle de tout ce qui doit grandir, de tout ce qui doit se développer en nous. L'Esprit a bien des fruits à produire dans notre vie, des fruits de foi, des fruits de sainteté, des fruits d'amour, des fruits de fidélité à Dieu, des fruits de croissance spirituelle. On s'appuie sur la base donnée en Christ pour construire le reste. La mission de Jésus est bien accomplie. Elle est un fondement pour lequel on peut continuer à construire, à avancer. Troisième perspective, cet anniversaire nous dit aussi que l'histoire a basculé. La promesse du salut ne se cantonne pas au seul peuple d'Israël. Il était le premier bénéficiaire de la révélation du Dieu unique, le premier réceptacle de ses promesses. Le salut désormais s'universalise. Ce qui fait que l'on appartienne au peuple de Dieu n'est plus la naissance dans une lignée particulière, dans un peuple particulier. Ce qui fait que l'on appartient au peuple de Dieu, c'est l'ouverture personnelle à Dieu. C'est la repentance, c'est la foi en Jésus pour le pardon des péchés. C'est personnel, chacun doit faire la démarche. Mais parce que c'est personnel, du coup, cela devient universel. Cette possibilité devient valable pour tous, auprès, au loin, aujourd'hui, demain. Pour tous, nous dit le texte, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et le signe des langues multiples, parlé par les disciples sous l'action du Saint-Esprit, dit cette universalité. Les merveilles de Dieu, elles sont pour tous. Chacun doit pouvoir les entendre dans sa propre langue. L'histoire a basculé. Le peuple de Dieu est désormais composé de gens de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation. C'est ce qui sera chanté dans le ciel lorsque tout sera accompli. Alors oui, bon anniversaire d'Église, et reste fidèle à cette dynamique. Ne t'enferme jamais dans un ghetto. Ne te construis jamais un bunker. Laisse-toi conduire. Laisse-toi pousser toujours au-delà de toi-même, vers toutes celles, tous ceux que le Seigneur appellera. Voici donc quelques perspectives lorsque l'on regarde à la Pentecôte, à cet événement, un peu en perspective dans le rétroviseur. Ceci dit, la Pentecôte telle que nous l'abordons aujourd'hui est un double anniversaire. C'est à la fois l'anniversaire du don de l'Esprit et celui de la fondation de l'Église. Les deux vont ensemble. C'est la venue de l'Esprit qui crée l'Église. Et j'aimerais juste que nous laissions un petit peu retentir cela en nous à présent. C'est d'abord un encouragement. Nous appartenons à l'Église, au peuple de Dieu. C'est que nous avons été touchés par le Seigneur, touchés par son Esprit. Voyez ce qui se passe à la Pentecôte. Ceux qui déjà avaient été avec Jésus et qui attendaient l'Esprit que Jésus leur a promis voient de fines langues de feu qui se séparent les unes des autres et se posent sur chacun d'eux. Chacun a sa part à la réalisation de la promesse. Chacun a part au Saint-Esprit, personnellement. Aucun n'est oublié. Aucun n'est favorisé. Tous sont remplis du Saint-Esprit. Et qu'en est-il des autres, de ceux qui accourent de loin et qui se joignent à l'Église? Il nous a dit, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et comment le fait-il? Il touche les cœurs et les consciences. Il permet la réponse de la foi. Il permet qu'ils disent « Mais que ferons-nous » Et lorsque Pierre dit « Repentez-vous », ces gens font la démarche. C'est ce que Jésus avait promis concernant l'Esprit. Lorsque l'Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. L'Esprit convainc de péché, Nous avons besoin de reconnaître que nous sommes coupables devant Dieu par le mal que nous avons fait, par les attitudes de suffisance et d'indifférence que nous prenons souvent à l'égard de Dieu, de notre Créateur. Nous avons besoin d'être convaincus de péché. Mais c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit que de faire cela. L'Esprit convainc de justice. Il convainc du fait qu'il y a une source de pardon possible, une justice qui peut être donnée malgré nos fautes. La justice que Jésus nous a acquise et dont il veut nous revêtir si nous mettons notre foi en lui. Et puis l'Esprit convainc de jugement. Le monde qui pense pouvoir s'affranchir de Dieu, ce monde-là un jour périra. Le Seigneur triomphera. Il triomphera soit par la grâce du salut, soit par le jugement d'une juste sentence. Voyez-vous, personne ne peut se tourner vers Dieu sans cette triple conviction, à un degré ou à un autre. Pour se tourner vers Dieu, pour être accueilli vraiment par lui, il faut reconnaître son péché, convaincu de péché, avoir foi en ce que Jésus seul peut nous donner, être convaincu de la justice, être saisi par le fait que la vie sans Dieu ou la vie contre Dieu ne mène à rien, être convaincu de jugement. Après la prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient là eurent le cœur vivement touché, nous a-t-il dit. Ça, c'est l'action de l'Esprit, une action individuelle, une action personnelle aussi, comme les langues de feu pour ceux qui étaient là, qui avaient suivi Jésus et qui attendaient sa promesse. Alors simplement, nous sommes-nous repentis de nos péchés? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous n'aurions jamais pu le faire tout seul. Avons-nous mis notre foi en Jésus? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous n'aurions jamais pu le faire tout seul. Nous sommes-nous détournés de notre vie d'avant? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Portons-nous la joie, la certitude d'être enfants de Dieu? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Autrement dit, nous appartenons à l'Église, au peuple de Dieu, nous savons que nous y appartenons. C'est que nous avons été personnellement touchés par le Seigneur, touchés par son Esprit. Paul le dira aux chrétiens de Corinthe, nous avons tous été baptisés en un seul Esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul et même Esprit. Pas question de dire que certains chrétiens ont été baptisés dans l'Esprit et d'autres pas. Ça voudrait dire que certains chrétiens appartiennent à l'Église de Jésus-Christ et d'autres pas. Ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut dire par contre, certainement, c'est que certains chrétiens, et nous pouvons tous l'être selon de manière différente, sont plus ou moins remplis du Saint-Esprit, sont plus ou moins en phase avec l'Esprit, sont plus ou moins porteurs du fruit de l'Esprit. Mais on ne peut pas appartenir à Jésus sans avoir son Esprit. C'est la Bible qui le dit. Les 3000 qui sont convertis le jour de la Pentecôte n'ont pas vu descendre sur eux des langues de feu. Ils n'ont probablement pas parlé les langues qu'ils n'avaient pas apprises. Mais ils ont été touchés, ont été baptisés dans l'Esprit, ont été renouvelés dans l'Esprit. Et la suite le montre. Ils se nourrissent de l'enseignement des apôtres. Ils forment un seul corps, leur vie est transformé. Alors j'aimerais juste ici m'adresser à vous qui êtes là, qui êtes chrétien, qui faites partie de la famille de Dieu. Juste vous rappeler, nous rappeler, que si vous êtes là, c'est parce que l'Esprit vous a touché personnellement. Si vous êtes là ce matin vraiment, c'est le signe que l'Esprit s'est intéressé à vous. Il s'est posé sur vous. Il habite en vous. Il tient à vous. Il est en vous, il restera, il ne vous lâchera pas. C'est la base de la vie chrétienne. C'est la base de l'Église. C'est la base du nouveau peuple de Dieu. Et j'aimerais que ça vous encourage ce matin. Pas votre voisin, mais que ça vous encourage, vous. Le Seigneur est venu vers vous, vers chacun de vous, si vous êtes ouvert à lui. Il est venu vraiment. Il fait son habitation en nous, en vous. Le Seigneur tient à vous. Il veut être comme pour vous, comme Jésus l'a promis, le consolateur, le compagnon de route, l'avocat, celui que l'on appelle à ses côtés. Il veut être aussi celui qui régénère, celui qui fait du neuf dans votre vie. Il veut être celui qui vous équipe. Il veut être celui qui vous dirige. Tout cela, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie. Et s'il est venu dans votre vie, et parce qu'il est venu dans votre vie, c'est cela ce qu'il veut faire. Ce sont cela les possibilités qui nous sont données par sa présence, par son action. Il veut être celui qui nous sensibilise à ce que Dieu aime. Celui qui sait mettre à cœur des choses que Dieu attend de nous. Il veut être pour nous celui qui crée le vouloir et le faire. N'oubliez jamais ce don. N'oubliez jamais ce don. Il est à vous. Il est la présence personnalisée de Dieu pour vous. Il est la marque de son intérêt particulier pour vous. N'oubliez jamais ce don. Mais ouvrez-vous aussi. Ouvrons-nous aussi à son action chaque jour. Seigneur, tu m'as donné ton esprit. Conduis-moi par ton esprit. Seigneur, sensibilise-moi à ce à quoi tu veux me rendre sensible par ton esprit. Seigneur, change-moi là où je dois être changé par ton esprit. Seigneur, sanctifie-moi par ton esprit saint, par l'esprit de sainteté. Seigneur, parle-moi, forme-moi par l'esprit de vérité qui a inspiré ta parole. Seigneur, ne me laisse pas tranquille si tu veux faire quelque chose en moi. Seigneur, crée en moi le vouloir et le faire dans tel domaine de ma vie où je sais que je dois avancer et où je n'y arrive pas tout seul. Sommes-nous prêts à renouveler notre ouverture au Saint-Esprit, à le faire sincèrement, à le faire sérieusement, pas juste un dimanche et un lundi de Pentecôte, mais pour la marche de tous les jours, par une prière renouvelée, par une prière régulière, par une prière sincère. Nous ne savons pas forcément où ça va nous mener. C'est au Seigneur de le faire. Mais nous savons que si sincèrement nous faisons ce genre de prière, cela va faire bouger les lignes de notre vie. Nous allons voir l'adhérence, des progrès, des avancées. Sommes-nous prêts à nous ouvrir sincèrement à l'action du Saint-Esprit, à son action transformante dans notre vie? Nous avons besoin chacun de cette action, mais elle est aussi la promesse, la belle promesse de Dieu pour nous. À la Pentecôte, dans cette fondation du nouveau peuple de Dieu, il y a cette action personnelle, personnalisée du Saint-Esprit pour chacun des membres du peuple de Dieu. Veillons à honorer, à nous ouvrir à cette action personnelle. Elle dit l'intérêt de Dieu pour chacun d'entre nous. Ceci dit, si nous regardons bien ce récit de la Pentecôte, nous découvrons une autre dimension. C'est que l'Esprit qui agit en chacun personnellement crée aussi une unité, un corps, une communauté. Et on voit que tous ceux qui croient sont avides de se retrouver. Ils ont soif de recevoir l'enseignement des apôtres, d'en savoir plus sur Jésus, d'en savoir plus sur la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu pour eux. Ils ont soif, ils aiment être ensemble, ils aiment manger ensemble, ils aiment se souvenir ensemble de ce que Jésus a fait pour eux. Ils aiment prier ensemble. Et ce n'est pas forcé, c'est le fruit d'un commun accord. Ils le vivent dans la joie, dans l'allégresse, en toute simplicité de cœur. C'est l'autre versant de l'action du Saint-Esprit. Il unit, il crée une fraternité. Vous avez tous été baptisés dans un même esprit, nous dit l'apôtre Paul, pour former un seul corps. C'est ce qui illustre la Pentecôte. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et Luc nous fait le récit émerveillé de ce qui s'est passé. Il semble bien que certains des pèlerins qui étaient venus à Jérusalem, qui étaient venus normalement juste pour un certain temps, ont prolongé leur séjour dans la ville. Une fois qu'ils ont découvert ce qu'était Jésus pour eux, qu'ils se sont ouverts à ces merveilles du salut en Jésus-Christ, alors ils ont prolongé leur séjour à Jérusalem. Ce qui veut dire qu'il a fallu mettre les petits plats dans les grands. Et plusieurs, pour faire face aux besoins qui survenaient, ont eu des gestes de grande générosité. Certains vendaient un bien, d'autres mettaient ce qu'ils possédaient à disposition de la communauté, comme leur maison par exemple. On s'est retrouvés dans plusieurs maisons à Jérusalem. On ne sait pas combien de temps cela a duré, mais le mouvement était donné. Et ce mouvement dit que l'Esprit de Dieu unit tous ceux qui croient. Il les solidarise. Le nouveau peuple de Dieu n'est pas une somme d'individus, mais c'est un lieu de relation, un lieu de communion, un lieu de solidarité où l'on se découvre membres les uns des autres. Si l'un souffre, tous souffrent avec lui. Si l'un se réjouit, tous se réjouissent avec lui. Et cela va se vivre partout où il y a une église. Pas seulement à Jérusalem au tout début. Les expressions bibliques qui parlent de cette unité que crée l'Esprit de Dieu concernent des églises qui sont fondées des années plus tard. Paul parle de former un seul corps, nous tous qui avons été baptisés dans l'Esprit Saint, il en parle aux chrétiens de Corinthe. Lorsque Paul parle de maintenir l'unité de l'Esprit, c'est aux chrétiens d'Éphèse et de la région d'Asie mineure. Lorsqu'il dit que nous sommes tous membres les uns des autres, il en parle aux chrétiens de Rome. Donc si vous voulez, le mouvement ne s'est pas arrêté juste au tout début à Pentecôte. Ça a continué. Le miracle de la communion de l'Église a continué. Partout où l'Église s'est formée, partout où il y a eu de nouvelles Églises. Et ce miracle continue jusqu'à nous aujourd'hui. Dieu se forme, Dieu veut se former un peuple uni. Un peuple solidaire, un peuple fraternel. Et cela, c'est pour une part donné et pour une part à construire. Pour une part donné, pour une part à construire. Paul dit aux chrétiens de la région d'Éphèse, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Éphésiens 4, verset 3. « Efforcez-vous de conserver le lien de l'unité d'esprit. Vous n'avez pas tout à créer. Il faut conserver ce qui est déjà donné. Mais efforcez-vous de conserver. » Et juste avant, Paul a dit que ça signifie « faites preuve d'humilité, faites preuve de douceur. Apprenez même à vous supporter les uns les autres avec amour. » C'est ce qu'il dit aussi dans ce contexte d'Éphésiens 4. La fraternité chrétienne que crée l'esprit doit affronter des différences qui demandent un effort pour ne pas se séparer. Nous nous confrontons dans nos relations les uns avec les autres, avec des traits de caractère, avec des idées, avec des manières de réagir qui ne nous correspondent pas toujours et de loin. Mais il y a cette unité plus profonde qui existe en Jésus et par l'Esprit et qui nous aide et qui nous invite à développer des relations d'amour par le lien de la paix en vue d'une harmonie, d'une meilleure compréhension mutuelle. Et les ressources pour cela, c'est le fruit que l'Esprit veut développer de nous. Un fruit d'amour, un fruit de joie, de paix, un fruit de patience, de bonté, un fruit de bienveillance, de fidélité, un fruit de douceur, de maîtrise de soi. On parle souvent de fruits de l'esprit, comme on dit, comme des qualités personnelles. Je dois avoir cela en moi. Vous avez vu quand même comme ces qualités, elles sont tout autant relationnelles. L'amour, la paix, la patience, la bienveillance, ça concerne nos relations. Ce sont des choses à mettre en œuvre très concrètement lorsqu'on est les uns avec les autres, les uns en face des autres. Donc le fruit de l'esprit, c'est aussi ce que je suis invité à mettre en œuvre dans mes relations. En tout cas, ce qui s'est passé à Jérusalem a vraiment impressionné cette unité des chrétiens. Et on y a vu vraiment une signature authentique de l'Esprit de Dieu. Cette marque n'est pas un vestige du passé. C'est une réalité à vivre, à développer aujourd'hui encore. Partout où existe l'Église, partout où existe le peuple de Dieu créé par l'Esprit et nourri par la parole. Autrement dit, chez nous aussi. Autrement dit, chez nous encore. L'action de l'Esprit formait une communauté aimante, une communauté vraiment où l'on voit cette unité, cette fraternité qui est fondée dans l'unité que donne l'Esprit. Un dernier mot pour compléter le tableau. Tout cela s'est vécu dans une dynamique de témoignage et d'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Forts de leur communion, les chrétiens de Jérusalem ont été à Jérusalem d'abord les témoins du ressuscité. Et on les voit tous ensemble au temple, où ils parlent, où ils chantent, où ils vivent leur foi. Et il nous est dit qu'ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. L'Esprit qui les unissait les a aussi poussés vers les autres et poussés ensemble d'une certaine façon vers les autres. « Vous serez mes témoins », avait dit Jésus à ses disciples avant de les quitter. C'est ce qu'ils ont été. Et il y a là encore une signature authentique de l'Esprit de Dieu et une dimension à laquelle il nous faut tenir fermement. Leur unité, leur fraternité ne les a pas isolés de ceux qui vivaient autour d'eux à Jérusalem. Au contraire, ensemble, ils allaient vers tout le peuple de Jérusalem. Mais ensemble aussi, ils accueillaient de nouvelles personnes. Et ça, on l'oublie parfois. Il est dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait et il suivait. Chaque personne ajoutée devait être accueillie. C'était quand même aussi une réalité de ce qu'il vivait. Ils ont vécu par cet accueil, cette communion ouverte et partagée. Ils ont vécu vraiment aussi là quelque chose d'une église, d'une communauté qui vraiment a les bras grands ouverts et qui est au service du témoignage, au service de l'accueil. Donner à chacun de ceux que le Seigneur ajoutait à l'Église sa place. Donner à chacun de ceux que le Seigneur ajoutait à l'Église un espace de communion. Donner à chacun de ceux que le Seigneur ajoutait à l'Église l'enseignement, la formation dont il avait besoin. Ils ont dû en voir passer du monde, mais ils ont accueilli toutes celles, tous ceux que le Seigneur leur confiait. Nous n'avons pas à opposer fraternité et témoignage, mais à faire de la fraternité un outil pour le témoignage. L'Esprit veut nous unir en vue de cette mission que Jésus nous a laissée, et les langues qu'ils ont parlées le jour de la Pentecôte rappellent l'extension de cette mission. Et il faut toujours que nous gardions en vue cette universalité de l'Évangile. L'Esprit les a unis en vue cette mission que Jésus leur a laissée, qu'il nous a laissée, d'être ses témoins autour de nous, de plus en plus largement et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pouvons compter sur lui pour qu'il fasse l'œuvre que lui seul peut accomplir. Lui seul peut convaincre les cœurs. Mais demandons-lui qu'il puisse compter sur nous fidèlement lorsqu'il aura besoin de bouche pour annoncer la bonne nouvelle ou de bras pour accueillir. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il le fait encore aujourd'hui, chaque jour. Il ajoute des gens à son Église, à l'échelle du monde entier, ça fait énormément, chaque jour. Chaque jour, le peuple de Dieu grandit. Chaque jour, le peuple de Dieu s'étend. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, par l'annonce de la parole, pour accomplir tout le dessein bienveillant du Père. Demandons au Seigneur d'entrer nous aussi dans cette œuvre, encore, toujours, dans toute la mesure où il nous le demande. Alors oui, Pentecôte, l'anniversaire de l'Église, l'anniversaire de la venue de l'Esprit, les deux ensemble. Joyeux anniversaire, Église, en ce jour de Pentecôte, et surtout, bonne continuation par l'action vivante et vivifiante de l'Esprit Saint. Amen.